Bonjour à vous. En matière de santé et sécurité au travail, avez-vous déjà eu marre d'avaler des couleuvres, de servir de tampon, de couvrir les responsabilités de votre employeur malgré lui? Eh bien, voici comment faire pour ne plus être l'alibi de votre patron. Avez-vous déjà lu des annonces sur des sites de recrutement intitulés « Recherche un responsable sécurité ». Le dirigeant qui recrute pense-t-il qu'en désignant un responsable sécurité, ce dernier va assumer l'entière responsabilité des résultats, voire des responsabilités pénales? Pense-t-il qu'il va pouvoir déléguer ses pouvoirs en la matière? C'est quand même une sacrée illusion. Cette position, en fait, c'est un contresens quant à la répartition des rôles et des missions entre le manager fonctionnel et hiérarchique et entre un dirigeant et son préventeur. En fait, responsable sécurité, c'est un titre qui vous condamne avant même d'avoir mis les pieds dans l'entreprise. Alors, dernièrement, j'ai lu un article qui expliquait l'évolution de la réglementation concernant l'obligation de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Alors, pour les puristes, c'est dans le Code du travail. Le titre de l'article, il était éloquent. C'était « Le responsable sécurité en entreprise, une obligation depuis le 1er juillet ». Eh bien non, désolé, justement, ce sont pas les termes responsable sécurité qui sont inscrits dans ce texte. Et le législateur, il a surtout pas fait la confusion. Il a bien précisé salarié compétent. Dans le corps des annonces, vous avez certains qui vont jusqu'à formaliser les missions pour les préventeurs, telles que faire respecter les règles de sécurité, garantir le respect des procédures de travail, analyser les accidents, rédiger les consignes de sécurité. Non, tout ça n'a pas à être attribué aux préventeurs. Ça, c'est le rôle de la hiérarchie. Si vous cautionnez ça, eh bien, vous devenez un vrai alibi pour que les autres ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, pour vous éviter de tomber dans ce piège, eh bien, je vous propose 7 clés qui ont fait leur preuve. Avant cela, sachez qu'un des problèmes majeurs du dénommé responsable sécurité est qu'il prend à sa charge, de par son titre, l'entière responsabilité des réussites et des manquements. Sur lui va reposer cette obligation de résultat qui est assez connue. Si c'est le cas et qu'avec votre dirigeant, vous êtes d'accord sur ce fait, pas de problème, penchez-vous sur les notions de délégation de pouvoir, notamment sur les 3 critères que sont l'autorité, la compétence et les moyens. Surtout, cadrez bien le périmètre délégué, attribuez-y correctement le champ des responsabilités, formalisez la délégation, diffusez et communiquez-la, mais vraiment en toute transparence. Contrôlez la mise en œuvre et mettez-la régulièrement à jour. N'oubliez pas le pouvoir de sanction et recevez aussi, bien sûr, une formation adaptée. Pour l'avoir vécu, vous ressentirez 2 émotions bien distinctes lorsque vous validerez le document en question. Une forme d'exaltation vis-à-vis du risque pris en validant ce genre de pouvoir et surtout une prise de conscience de l'ampleur de la tâche qui vous attend pour assumer ce genre de responsabilité, notamment celle vis-à-vis de la justice en cas de manquement. Sans une délégation claire et connue de tous, le fait d'être étiqueté comme un responsable sécurité, eh bien, ça peut occasionner quand même des confusions. En effet, puisque vous avez la responsabilité, eh bien, les autres pourront vous faire porter le chapeau en cas de problème. Vous aurez en permanence des équipes qui se déchargeront sur vous. Vos interventions dans les ateliers pourront être source de conflits. Votre visite, en fait, pouvant être considérée comme une sorte d'ingérence par la hiérarchie. Alors cela peut être encore plus compliqué si votre CHSCT ou CSE commence à s'emmêler et que vous avez votre dirigeant qui a d'autres priorités. Il y a des stratégies défensives qui vont voir le jour, les résultats vont pas s'améliorer, le climat peut se dégrader, en fait, chacun va garder sa posture. Le préventeur qui, normalement, doit coordonner le système, il peut petit à petit se transformer en exécutant. Il va occulter la dimension managériale de cette fonction. Il va plus acculturer les autres, il va simplement répondre à des demandes techniques. Alors bien sûr, vous avez certains préventeurs qui vont avoir tendance à vouloir couvrir leurs responsabilités, le sacré parapluie. Ils créent un système de preuves comme par exemple le fait de conserver tous les mails envoyés, les accusés de réception et de lecture, de formaliser des procédures à tout va, d'en oublier en fait le système de management. Et surtout, l'attention qu'il faut lui apporter. D'autres préventeurs vont rester dans leur bureau. Ils vont s'éloigner du terrain Ils répondent aux sollicitations des autres en cherchant des réponses techniques, en fait, à des problèmes qui sont plutôt humains, organisationnels et managériaux. En fait, les risques, ils ne viennent pas à nous, ils sont sur le terrain, là où les problèmes se posent, et avec les gens qui les vivent. Donc, il faut être là. Très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder justement, là, ces 7 clés pour ne pas être l'alibi de votre patron. Première clé, demandez à être rattaché au numéro 2 de l'entreprise. Et s'il n'existe pas, dépendez du premier. Proscrire tout autre rattachement, notamment à la production, aux services généraux, à la maintenance ou aux ressources humaines, ce qui se fait beaucoup. Pourquoi le numéro 2 ? En fait, parce qu'il est celui qui traduit la vision stratégique en activité opérationnelle. Il est en relation avec les différentes fonctions afin d'exercer une sorte de contrôle sur la mise en œuvre de cette stratégie. C'est un peu le couteau suisse de l'entreprise avec des compétences en RH, en production, en administratif, en juridique, en finance, en informatique, voire même des fois, il est même dans le commerce. Il a la vision en fait globale de tous les systèmes et des processus et peut les modeler. C'est en fait le rattachement par lequel les résultats sécurité, statistiquement parlant, sont les meilleurs. Nous sommes à la deuxième clé. Prenez vos responsabilités comme vous l'entendez et pas comme les autres le décident. L'important est d'être bien droit dans ses bottes, puisque c'est sur vous que repose l'efficacité du système. Plus vous serez vous-même avec vos qualités et défauts, plus vous aurez de l'aura et plus votre influence augmentera. En d'autres termes, assumez ce que vous êtes. Et si vous ne pouvez pas répondre à la question « Quel est mon feu sacré ?», alors faites-vous accompagner par un coach, par exemple, qui vous aidera à le découvrir. Vous ne pouvez pas assumer pleinement vos responsabilités sans savoir qui vous êtes. La troisième clé, ayez le courage de dire et de décider. Si vous avez des remarques encourageantes ou des formes de remontrance à exprimer, faites-le sans attendre, en y mettant les formes et sans détour. À ce titre, vous pouvez aller voir un article que j'ai écrit qui s'intitule « Les 5 étapes indispensables avant d'ouvrir la boîte à claques ». En tout cas, cela fait partie des caractéristiques du leadership, tout comme l'honnêteté intellectuelle et l'éthique. C'est aussi comme ça que le leader marque son empreinte et impose ses valeurs. Tous les collaborateurs vont respecter un leader qui est passionné, qui est courageux et qui s'illustre par des prises de décision. Franchement, il n'y a rien de plus démotivant qu'un chef qui ne décide pas. Nous sommes à la quatrième clé. Formalisez et répartissez les responsabilités de chacun en appliquant les deux méthodes séparément ou jumelées de la délégation de pouvoir et de la matrice de délégation de prévention. Pour cette dernière, elle permet en fait de répartir les missions que doivent prendre en charge les équipes en définissant qui décide, qui est responsable, qui valide, qui est associé, qui est informé. Cinquième clé, faites faire au lieu de faire. C'est Theodore Roosevelt qui nous donnait ce précepte par rapport à la conduite du manager face à ses collaborateurs. Il disait, le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. Le management transversal, c'est une activité visant à obtenir des résultats avec et grâce aux autres. De fait, le manager doit être expert dans l'art de faire faire et de faire réussir. Sixième clé, faites preuve de bienveillance exigeante. La première composante de la bienveillance est d'aimer les personnes. Et derrière ça, de faire preuve d'un respect inconditionnel. La bienveillance, ça facilite le dialogue entre les niveaux hiérarchiques, ça accorde le droit à l'erreur, ça fait naître le respect et ça humanise les relations. Néanmoins, attention, la bienveillance, elle doit être accompagnée d'exigences. Sinon, ça devient synonyme de complaisance. Laisser la bienveillance prendre le pas sur l'exigence, c'est un peu oublier que l'entreprise, elle doit atteindre des objectifs, rechercher la performance et d'une manière générale, réaliser du profit. À long terme, mettre l'exigence de côté, ça risquerait de mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Et enfin, on est à la septième clé. Refusez les budgets sécurité s'ils vous sont attribués. Privilégiez que les actions à mener apparaissent dans le budget des autres. C'est une façon en fait de rendre l'action légitime par celui qui en a la responsabilité. C'est une façon supplémentaire d'implémenter votre culture sécurité. tous les services, en fait, qui auront des lignes budgétaires affectées aux questions de sécurité vont apparaître dans votre PAPRIPACT, dans votre programme, comme des pilotes d'action. Vous pourrez ainsi beaucoup mieux coordonner et contrôler votre système. Alors, pourquoi les 7 clés, elles fonctionnent? Ben, en fait, votre rôle, c'est celui d'un expert coordinateur, animateur et contrôleur du système de management. La répartition claire des rôles permet à chacun d'occuper la place qui lui revient sans empiéter ou se décharger sur les autres. La hiérarchie, elle doit prendre en charge le maintien de la sécurité. Le préventeur, lui, il prend en charge l'amélioration. Les 7 clés, elles fonctionnent parce qu'en fait, elles organisent le pouvoir au sein de l'entreprise. Elles protègent individuellement et en même temps collectivement contre toutes les luttes de clochers. Elles vont éviter les conflits, elles rendent responsables, mais surtout, elles permettent d'éviter des combats permanents entre les différents managers opérationnels et les managers fonctionnels. S'il n'y a pas cet équilibre-là, bah, considérez qu'il y a des équilibres. Les 7 clés combinées, en fait, elles donnent du sens aux responsabilités, elles sont source de résultats, de changements et d'améliorations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, pour ma part, sachez que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. Je vous dis à très bientôt, profitez-en et en attendant, bien sûr, restez prudents.